Protestantisme américain ce soir. On avait vu donc la situation dans laquelle on se trouvait au début du 19e siècle, qui était une situation difficile. L'Amérique était inondée de littérature perverse. C'était l'époque où il n'y avait plus de loi, n'est-ce pas? L'épopée de la ruée vers l'Ouest, avec toute cette arrivée de gens plus ou moins douteux qui venaient se refaire une virginité de l'autre côté de l'Atlantique, des repris de justice, des gens qui avaient des mœurs plus ou moins discutables et qui se retrouvaient donc là-bas. Et ça a contribué considérablement à faire baisser le niveau moral et spirituel de l'Amérique au cours du 19e siècle. La situation était tellement dramatique que l'on pouvait craindre une déperdition de la foi aux États-Unis. Et on peut dire que cette période est une des périodes les plus sombres de l'histoire américaine depuis l'indépendance. Et c'est alors que, bon, il y avait eu des réveils dans les temps passés, le grand réveil du 18e, au Kentucky en particulier. Et puis, heureusement, au 19e siècle, il va y avoir une série de réveils qui vont changer le cours de l'histoire américaine. Ça, on peut le dire sans crainte. Le mouvement de réveil, qui devait avoir ensuite des conséquences dans plusieurs manifestations du réveil, ont commencé sans qu'il y ait un homme qui soit au premier plan. C'est quelque chose qui a commencé d'une manière plutôt discrète par des groupes de prière qui se sont créés spontanément, de gens qui recherchaient une visitation de Dieu sur le pays qui sombrait dans l'immoralité et qui priaient pour que Dieu envoie des temps de rafraîchissement. C'était des réunions qui avaient pour assistants principaux des jeunes. Il y avait chez les jeunes une grande soif justement d'une visitation de l'Esprit de Dieu. Et ces jeunes n'hésitaient pas à parcourir de grandes distances pour participer justement à ces réunions de cuisine, comme on dirait aujourd'hui, qui se tenaient dans des chambres d'étudiants, dans des maisons privées pour prier pour que le Seigneur visite, n'est-ce pas, le pays. Et c'est ainsi que petit à petit, il y a un mouvement étudiant qui s'est créé et les universités américaines ont été les premières qui ont été touchées par le mouvement de retour à Dieu. Ce fut le cas du président de l'université de Yale, la prestigieuse université, des plus prestigieuses universités américaines, qui s'appelait Dr. Timothy Dwight, et qui s'est converti, disons, s'est vraiment tourné vers le Seigneur. Et la conversion du président de l'université a provoqué trois conséquences. La première chose, c'est qu'il a interdit les pratiques immorales sur le campus de l'université, pratiques immorales qui s'étaient répandues. Et puis, dans la mesure où l'université a été le foyer de rayonnement de tout un mouvement de retour à Dieu, il y a eu un renouveau des églises dans laquelle les jeunes étudiants se sont intégrés. Et puis, le troisième point aussi, ça a été l'élan missionnaire, un élan missionnaire qui va s'inscrire dans dans le grand souffle de l'épopée missionnaire qui va marquer le 19e siècle et qui sera caractérisé essentiellement par des missionnaires d'origine anglo-saxon dans lesquels ils joueront une part essentielle. Et puis aussi quelque chose qui est un petit peu moins positif, c'est l'apparition aussi de nouvelles dénominations. Personnes qui vont être touchées par ce mouvement, c'est Philippe Otterstein et Martin Bohème, je ne sais pas comment on dit ça en allemand, c'est un nom allemand originaire allemand certainement, oui, Boehm, qui a été respectivement, le premier était réformé et le deuxième mennonite. Et ces deux hommes vont passer par une puissante expérience avec Dieu qui va changer leur vie et ils vont être les deux premiers prédicateurs du réveil, si vous voulez. Le réveil jusque maintenant était resté limité au peuple. Et là, pour la première fois, vont se lever donc des hommes de Dieu qui vont prêcher avec puissance. Et ces deux prédicateurs vont essentiellement être les instruments du réveil de Pennsylvanie qui va marquer la fin du 18e et le début du 19e siècle. Et c'est ainsi que, à la suite de ce mouvement, en 1800, très exactement, a lieu une conférence qui se tient à Frederick County, où se forme une communion communion de gens qui sont engagés à fond dans ce réveil, qui s'appelle United Brethren, les frères unis. Ça. Le problème, évidemment, avec ces réveils, c'est qu'ils ont toujours tendance à créer des nouvelles dénominations. Des dénominations qui entendent rassembler les autres, mais finalement qui créent une nouvelle division. Et les United Brethren ne vont pas échapper à cette règle, hélas, n'est-ce pas? Ensuite, le mouvement va se poursuivre à partir de la Pennsylvanie, notamment en 1813 et 1822. Il va y avoir deux pics qui vont être atteints par le mouvement, et notamment va apparaître un autre prédicateur qui va avoir une grande importance dans ces deux réveils-là, c'est Jacob Holbright, qui lui aussi va tout simplement, le réveil va aboutir à la création d'une nouvelle entité qui va tout simplement s'appeler Evangelical Church, Église évangélique. C'est pour ça que vraiment Église évangélique, c'est un mot qui apparaît à toutes les sauces. Bon, il faut citer aussi un peu dans la mouvance de ce réveil, en 1895, donc c'était tout début, l'apparition aussi d'une autre église, d'une église nouvelle, qui s'appelle l'église du Nazaréen. L'église du Nazaréen, c'est dans la continuité du mouvement méthodiste, et c'est une forme, si vous voulez, de la piété méthodiste, en gros, n'est-ce pas ? Bon, pourquoi s'était-elle séparée du corps de l'Église méthodiste ? Parce que, justement, l'Église méthodiste officielle refusait le réveil, tandis que ces gens-là, justement, avaient faim et soif du réveil. Ce qu'on entendait par réveil à cette époque-là, c'était tout simplement la redécouverte de la conversion, la redécouverte de la nouvelle naissance et de la sanctification de la marche avec Dieu. Donc ça, ce sont dans les toutes premières années du 19e siècle, les premières manifestations donc de ce que l'on appellera le réveil, et ensuite les réveils, parce qu'il y en aura un certain nombre. Et nous arrivons maintenant à un des plus grands hommes de Dieu qui... il faut citer en 1896... dans l'État de New York, donc, il y avait des réunions de prière pour prier pour le réveil. Et le pasteur Lyman Bleacher a été aussi un des prédicateurs importants qui sont intervenus dans l'État de New York dans les premières années du 19e siècle. Mais le plus grand de tous ces revivalistes du 19e siècle en Amérique, c'est sans conteste Charles Finney, 1792-1875. Charles Finney est un homme qui a marqué son époque, et qui non seulement a marqué son époque, mais continue à marquer l'Église. Notamment, c'est la lecture de ses ouvrages qui provoquera le réveil des boxeurs en Chine, début du siècle, n'est-ce pas, de notre siècle ici. Et Charles Finney est un homme qui s'est converti à l'âge de 21 ans, en 1821, qui est devenu un des plus grands prédicateurs de tous les temps, qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, sans savoir ce que c'était que le baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'à son époque, évidemment, il n'était pas question de baptême dans le Saint-Esprit, et qui, jusqu'en 1860, aura un ministère itinérant de revivaliste. Il va être celui qui va marquer toute une époque, et qui va changer, on pourrait dire, vraiment l'orientation non seulement de l'Église en Amérique, des Églises en Amérique, du christianisme en Amérique, mais on pourrait dire de l'Amérique elle-même. Le sort de l'Amérique va être bouleversé par le ministère d'un seul homme. Il est né donc en 1792 dans le Connecticut, et son éducation religieuse a été très négligée. C'était un jeune homme qui n'avait, pour ainsi dire, pas de contact avec les choses de Dieu, si ce n'est pour les juger de l'extérieur, et comme c'était un garçon d'une grande rigueur intellectuelle, il jugeait le christianisme de son temps avec beaucoup de dureté, de sévérité, plus exactement que de dureté. Il se rendait bien compte que l'état spirituel et moral de la nation était au plus bas, et il en rendait responsable justement les églises qui étaient mondanisées, les églises qui avaient perdu le feu du premier amour, les églises dans lesquelles la vie de piété était réduite à sa plus simple expression. De ce fait, Finet, jeune homme, n'était absolument pas attiré par le christianisme. Il a entrepris des études de droit, et il a acquis dans cette discipline, étant devenu avocat, très jeune d'ailleurs, un des plus jeunes avocats du pays, très brillant, très intelligent et très talentueux. Il avait en particulier une éloquence peu commune. Et en même temps, les études de droit ont développé chez lui une grande rigueur de pensée. Et c'était un homme qui a développé justement cette rigueur de pensée ensuite dans tout son ministère. C'est à l'âge de 20 ans qu'il a commencé à s'intéresser au christianisme, aux choses de Dieu. Et de temps en temps, il est allé fréquenter des églises. Et là, il se s'est rendu compte que c'était des églises sans vie. Un jour, il était dans une de ces églises, et un des anciens est venu vers lui et lui a demandé « Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous ?» Parce qu'il voyait qu'il venait de temps en temps, etc. Et qu'il semblait avoir un certain intérêt pour les choses de Dieu. C'était un jeune homme, il était avocat, tout le monde savait qu'il était très brillant. Et finalement, cette démarche de cet ancien partait d'un bon naturel. Et comme Finet était un homme sans détour et qui n'en voyait pas dire ce qu'il avait à dire, il a répondu froidement non. Il dit « parce que ça fait quelque temps que j'assiste à vos réunions de prière et je vois que vous priez toujours pour les mêmes choses, vous n'êtes jamais exaucé. Donc je ne vais pas vous demander de prier pour moi parce que je sais que vous ne serez pas exaucé. Il n'y a pas de raison que vous soyez plus exaucé quand vous priez pour moi que quand vous priez pour les autres sujets. Alors c'est inutile que vous priez pour moi. » Voilà à peu près la chose qu'il a dite à ce pauvre ancien qui a dû être un peu refroidi, évidemment. Mais malgré le fait qu'il se rendait bien compte que les églises étaient mortes et que donc il était très, très, très déçu, justement, Finet commençait à être travaillé par les choses de Dieu. Et c'est ainsi qu'en 1821, il a décidé vraiment de donner sa vie au Seigneur. Et il s'est tourné vers Dieu, il a cherché Dieu de tout son cœur. Et alors qu'il priait, demandant au Seigneur de le sauver, parce qu'il en était là, changer sa vie, il était profondément convaincu de péché, le Seigneur lui a dit « Il faut que tu ailles prier dimanche prochain. Tu ne seras sauvé qu'à partir du moment où tu iras prier dimanche prochain dans un petit bois là-bas, qui est l'endroit de promenade traditionnelle du dimanche après-midi de tous les habitants de la ville. » Ah, Finet a dit « Mais non, alors là non, c'est pas possible. Si je vais là-bas prier à genoux, tout le monde va me voir. Et qu'est-ce que les promeneurs qui sont là le dimanche, c'est ce bois, il est plein de promeneurs le dimanche après-midi. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tout le monde me connaît dans la ville, ils savent que je suis un avocat qui a du talent, du renom. Ma dignité, elle va en prendre un coup, etc. Enfin bon, toutes les objections. Puis il a dit au Seigneur, après tout, tu peux aussi bien me sauver ici dans ma chambre. Je me mets à genoux dans ma chambre, je te confesse mes péchés, tu me pardonnes, et puis voilà. » Et la voix du Saint-Esprit dans son cœur dit « Non, 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 tu n'auras la paix qu'à partir du moment où tu seras allé là-bas. » Et il dit « Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi là-bas? Pourquoi pas ici ?» Justement pour briser ton orgueil. Tu es un garçon orgueilleux et là-bas, justement, oui, effectivement, quand tout le monde verra Maître Finet, avocat, jeune et talentueux, à genoux, dans la poussière, en train de demander pardon à Dieu de ses péchés, eh bien, à ce moment-là, ton orgueil sera brisé. Plusieurs se moqueront de toi, plusieurs te mépriseront, c'est possible, mais c'est le but, c'est le but. Alors, Finet a lutté toute la semaine avec cette pensée qu'il avait dans le cœur. Et puis, finalement, il a compris que ça entrait dans la pédagogie de Dieu. Et le fameux dimanche en question, il est allé dans ce petit bois, il a fait ce que le Seigneur lui avait mis sur le cœur de faire. Et le soir, donc, il rentre chez lui complètement transformé. Voilà comment il a relaté cette expérience. « L'élan de mon âme était si puissant que je me précipitais pour prier dans la chambre contiguë de mon bureau. Il n'y avait ni feu ni lumière dans cette chambre. Néanmoins, il me parut tout éclairé. Comme j'entrais, fermant la porte après moi, il me sembla que je rencontrais le Seigneur Jésus face à face. L'idée ne me vint pas, ni de longtemps, que c'était un état moral. Au contraire, il me semblait le voir comme j'aurais vu un autre homme. Il ne disait rien, mais il me regarda de manière à me faire tomber à ses pieds. J'ai toujours dès lors considéré ce phénomène comme un très remarquable état de mon esprit, car j'avais le sentiment de la réalité de sa présence, et je tombais à ses pieds, sanglotant comme un enfant et confessant mes péchés, aussi bien que me le permettait mon émotion. Il me sembla que je baignais ses pieds de mes larmes. Toutefois, je ne me rappelle pas avoir eu distinctement l'impression de l'avoir touché. Il faut que je sois resté longtemps dans cet état, car lorsque je fus rendu assez calme pour que l'entrevue prît fin, étant rentré dans le bureau, je trouvais que le feu s'était complètement consumé. Mais comme j'étais sur le point de m'asseoir près de la cheminée, je reçus un baptême d'Esprit Saint sans que je m'y fusse attendu, mon attention n'ayant pas été dirigée sur ce point. Le Saint-Esprit descendit sur moi avec une telle puissance que je me sentis pénétré de part en part, corps et âme. Je sentais comme une onde électrique parcourant tout mon être, onde sur onde d'amour. Je ne saurais l'exprimer autrement. Il me semblait que c'était le souffle même de Dieu. Je me souviens distinctement d'avoir éprouvé comme si j'avais été vanté par d'immenses ailes. Aucune parole ne saurait exprimer le merveilleux amour qui se répandait dans mon cœur. Je pleurais à haute voix d'amour et de joie. Ces ondes passaient sur moi l'une après l'autre, tellement que je me rappelle m'être écrié « Je mourrais si ces ondes continuaient à passer pour moi ». Et j'ajoutais « Seigneur, je ne peux pas en supporter davantage ». Toutefois, je n'éprouvais aucune crainte de la mort. Il était tard dans la soirée quand un membre du cœur sacré, dont j'étais le directeur, vint au bureau pour me voir. Il me trouva pleurant à haute voix. Il me dit « Monsieur Finet, qu'avez-vous ?» Je ne pus lui répondre tout d'abord. « Souffrez-vous ? » reprit-il. Je fis un effort sur moi-même et je répondis non. Mais je suis heureux, je suis si heureux que je ne puis plus vivre. Voilà donc, si vous voulez, le récit que fait Finet de son baptême dans le Saint-Esprit. Et il parle de son patron, de son expérience dans les jours qui viennent. Et son expérience fait un tel effet sur son patron qu'il est à son tour convaincu de péché. Et comme il entrait, il se jeta à terre en criant « Priez pour moi ». Et Finet se mit à genoux et se mit à prier pour lui. Et voilà ce que donc il lui est arrivé encore cette nuit-là. Il a eu encore une autre visitation de Saint-Esprit. Je ne tardais pas à m'endormir. Mais je fus tout aussitôt réveillé par le flux d'amour qui était dans mon cœur. J'étais si rempli d'amour que je ne pouvais dormir. Étant endormi de nouveau, je fus éveillé de la même manière et je finis par prendre quelque repos. Quand je m'éveillai le matin, le soleil était levé et ses rayons pénétraient dans ma chambre. Je ne saurais exprimer en paroles l'impression que me fit cette lumière. Instantanément, le baptême que j'avais reçu la veille revint sur moi de la même manière. Je m'agenouillai sur mon lit et pleurai de joie, répandant mon âme aux pieds du Seigneur. Il me semblait entendre une douce voix de réprimande me disant « Veux-tu douter ? Veux-tu douter ?»« Non, m'écriai-je, je ne puis pas douter. » Une telle clarté se fit alors dans mon esprit qu'il me fut désormais impossible de mettre en doute le fait que le Saint-Esprit avait pris possession de toute mon âme. Dans cette situation, le dogme de la justification par la foi me fut enseigné comme une vérité d'expérience. Je comprenais maintenant le passage « Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu ». Je vis clairement que du moment où, dans le bois, j'avais cru, la conscience de ma condamnation m'avait été ôtée, et que c'était pour cela que tous mes efforts pour appeler dans mon âme le sentiment de péché avaient été vains. La conscience de ma condamnation était partie, mes péchés étaient partis. Je crois vraiment que j'avais aussi bonne conscience que si je n'avais jamais péché. Au lieu d'avoir le sentiment que je ne faisais que pécher, mon cœur était tellement rempli d'amour qu'il en débordait. Et dans les jours qui viennent, il sent l'appel au service de Dieu. Et il avait un peu négligé son travail dans l'émotion qui était la sienne, de ces expériences bouleversantes qu'il faisait avec Dieu pendant ces jours. Et un matin, donc, un ancien de l'Église se présenta à son bureau. C'était en même temps quelqu'un qui l'avait sollicité pour plaider une cause pour son compte. Et alors cet ancien rentre dans le bureau de Finet. Il dit « Monsieur Finet, dit-il, vous m'avez oublié, j'espère que vous savez que ma cause doit être plaidée ce matin à 10h, est-ce que vous êtes prêt ?»« Monsieur, répondit Finet, le Seigneur Jésus m'a retenu pour plaider la sienne, je ne puis pas m'occuper de la vôtre. » L'ancien était stupéfait, il dit « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? » Je me suis enrôlé au service de Christ et j'ai accepté la tâche de plaider sa cause. Vous voudrez bien vous pourvoir ailleurs d'un avocat. C'était tout fini, ça, catégorique, net et clair, n'est-ce pas? Et donc là, il s'est engagé immédiatement donc, pour le service de Dieu. Et à cette époque-là, bien entendu, il fallait être affilié à une église, il fallait avoir une licence pour avoir le droit de prêcher, il fallait avoir fait des études. Et Finet a réfléchi à toutes ces choses. Et pour lui, il n'était pas question d'entrer dans un séminaire théologique. Quand il a vu le niveau qu'il y avait dans ces instituts, ces écoles bibliques, etc., il a estimé que c'était une perte de temps totale, qu'il ne se ferait pas du bien, que dans la mesure où il cherchait à se préparer pour le service de Dieu, c'était pour être au contact d'hommes de Dieu qui lui apprendraient des choses qui venaient vraiment de Dieu, c'était pour apprendre des balivernes et des théologies complètement à côté de la plaque. Il n'est pas question qu'il aille dans ce genre d'institut-là. Alors il s'est mis tout simplement à participer aux réunions de prière. C'était comme ça qu'il a commencé. Et il priait avec une telle onction de l'Esprit, vu le baptême dans Saint-Esprit puissant qu'il avait reçu, que l'esprit de prière se répandait dans toutes les églises dans lesquelles il allait prier. Et pendant les réunions de prière, les gens se convertissaient, simplement à cause de la puissance du Saint-Esprit qui descendait alors dans les réunions de prière, les gens se convertissaient. Et ça a été le début de la vie de miracle de Finet. L'année suivante, donc au printemps 1822, il s'est présenté comme candidat devant le conseil de l'église presbytérienne du lieu. Et on est venu l'interroger pour voir où il en était sur le plan théologique. Et les anciens donc l'ont dit qu'ils étaient d'accord de le recevoir comme pasteur. Au contraire, c'était très bien. Ils avaient tellement vu la bénédiction de Dieu sur sa vie, mais à condition qu'il aille dans un collège biblique. Il a refusé tout net, disant franchement que l'éducation qui était donnée dans ces instituts théologiques était mauvaise, c'était son mot, n'est-ce pas, qu'elle corrompait et qu'elle ne correspondait pas à l'idée qu'il se faisait d'un serviteur de Dieu. Alors évidemment, là, les anciens de l'Église étaient moins satisfaits. Alors Finet ne s'est pas laissé décourager, et il a tout simplement pris sa Bible, il est rentré chez lui. Il a ouvert sa Bible et il a dit « Seigneur, enseigne-moi ». Et à l'étude de la Bible, seul, dans la présence de Dieu, à genoux, pendant plusieurs mois, eh bien, il s'est mis à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, en 1824, il a été appelé à devenir pasteur de l'église évangélique d'Evans Mill, qui était une église congrégationaliste, c'est-à-dire une église évangélique qui avait une structure qu'on appelle congrégationaliste, c'est-à-dire qui était autonome en quelque sorte. Et il a commencé à prêcher pendant un mois dans cette église. Et au bout d'un mois, tous les membres de cette église d'Evans Mill étaient fiers d'avoir un pasteur comme Finet. Ils étaient très contents de lui, vraiment très contents. Ils trouvaient que c'était un pasteur d'une éloquence hors pair. Seulement, ce sentiment était loin d'être partagé. Et si les membres de l'église congrégationaliste d'Evans Mill étaient fort contents de leur pasteur était beaucoup plus mécontent d'eux. Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils continuaient à vivre une vie de péché, une vie mondaine, une vie de tiédeur spirituelle. Et c'était pas du tout comme ça qu'il entendait que les choses soient. Et au bout d'un mois, après avoir prêché sans que rien ne se passe, il a rassemblé son monde et il leur a dit à peu près ceci. Il a prêché sur le texte du serviteur d'Abraham dans l'histoire du mariage de Rebecca, quand le serviteur d'Abraham est conduit par Dieu providentiellement, comme on le sait, et qu'il expose aux parents de Rebecca comment le Seigneur l'a conduit. Et il dit maintenant, voilà, si vous voulez user de bonté et de miséricorde envers mon serviteur Abraham, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. C'était le thème de sa prédication ce matin-là. Il leur a dit à peu près ceci, voilà un mois que je vous prêche l'Évangile, le dimanche et en semaine, ils avaient des réunions de semaine aussi, et j'ai constaté que vous ne tenez aucun compte de ce que je vous dis. Alors, une chose que vous devez savoir, c'est que moi, je suis là pour prêcher l'évangile, pour faire l'œuvre de Dieu, je suis serviteur de Dieu, et pas pour perdre mon temps avec des gens qui ne veulent pas entendre l'évangile. Alors voilà, je suis comme le serviteur d'Abraham ce matin. Si vous voulez user de bonté, de miséricorde envers mon Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, prendre au sérieux sa parole, réformer vos vies, vous convertir vraiment et mettre votre vie en règle avec Dieu, vous sanctifier, je reste au milieu de vous. Et si vous ne voulez pas vous convertir, si vous ne voulez pas vous sanctifier, dites-le moi. Et je ne resterai pas un jour de plus au milieu de vous. Et j'irai plus loin, prêcher l'évangile à des gens qui seront prêts à l'entendre. J'ai pas de temps à perdre. Alors évidemment, là-bas, on n'était pas tellement habitué à entendre prédication de ce type-là. Puis il les a mis au pied du mur. Et maintenant, allez-y, dites-moi. Silence gêné, évidemment, dans l'assistance à la suite de ce. Et personne n'a bronché ce matin-là. Personne ne s'est converti. Personne n'a répondu à l'appel qu'il avait fait. Alors, fini, il a dit parfait. Je prends note que vous avez décidé de vous rebeller contre Jésus-Christ, contre sa parole, et que cela vous serait imputé au jour du jugement. Pour ma part, eh bien, considérez-moi comme démissionnaire. Et donc, il est rentré dans son presbytère, préparer ses affaires pour partir. Et ce qui s'était passé s'est répandu dans toute la ville. On a commencé ce beau dimanche après-midi à parler de ce sermon révolutionnaire qui avait été prêché par ce jeune prédicateur dans cette église. Et la ville était tout en émoi, toute la ville était là, c'était un scandale. Comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Ça s'est jamais vu, c'est pas. Qu'est-ce que c'est que ce jeune prétentieux, c'est pas. Et des gens se sont rassemblés devant le presbytère, ont commencé à l'injurier, ont commencé à lancer des pierres, et même certains avaient des projets, des menaces de mort, choses comme ça. Alors, Finet devait quitter à un certain moment, et il s'est rendu compte que le combat spirituel était extrêmement dur. Et il s'est mis à jeûner, à prier. Et dans la semaine, tout a changé. Le dimanche suivant, il ne devait plus prêcher. Mais quelques anciens sont venus lui dire, écoutez, monsieur Vinet, on voudrait que vous prêchiez encore aujourd'hui. Il y a quelques personnes qui ont bien réfléchi à ce que vous avez dit dimanche dernier. Et, bon, on est prêt à vraiment à se remettre en question. Et ce dimanche-là, le réveil a éclaté dans cette église d'Evansville, de telle manière que des dizaines de personnes se sont converties. Et le réveil a éclaté dans cette église d'Evansville. Ça a été. Ensuite, l'église est devenue trop petite, tellement le nombre des convertis était grand, et une deuxième église a été fondée dans la ville. Et quand les choses ont été ainsi, Finit à estimer qu'il avait terminé son temps, il avait amené le réveil dans cet endroit, que maintenant cette église pouvait marcher toute seule et qu'il devait aller plus loin. Il est arrivé dans une deuxième ville, invité pour prêcher dans une église. Il connaissait pas la ville, il connaissait même pas le nom de la ville. Et ce soir-là, il a été amené à prêcher sur les anges qui descendaient à Sodome et la situation de Sodome et qui disait à Lot et à ses fils, sortez de ce lieu parce que l'Éternel va détruire la ville. Et il s'est mis à prêcher d'une manière avec feu, avec fougue, n'est-ce pas? Finet était un homme qui insistait énormément sur la crainte de Dieu et sur la nécessité d'échapper au jugement, juste jugement de Dieu sur les pécheurs. Et au fur et à mesure qu'il prêchait, il se rendait compte que les gens qui assistaient à sa prédication étaient furieux, furieux. Et finalement, quand il a terminé en disant maintenant, repentez-vous, ou bien le Seigneur va détruire la ville, c'était son thème. Pas la détruire peut-être au point de vue matériel, comme il l'avait fait pour Sodome, mais détruire, vous détruire. Et au moment de l'appel, presque tous les assistants sont sortis furieux en claquant la porte et le laissant seul. Il restait simplement un vieux monsieur qui était tout seul. Alors Finet s'est approché de lui, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont furieux? Qu'est-ce que je lui ai dit? Il dit, mais vous savez pas? Il dit, non. Vous savez comment s'appelle la ville? Mais non, la ville s'appelle Sodome. Il savait pas. Il avait prêché, l'Éternel va détruire Sodome. Et finalement, il s'est rendu compte que dans cette église-là, il y avait un seul homme qui marchait avec Dieu, ce vieil homme qui était là. Et chose aussi étonnante, cet homme s'appelait, tout le monde l'appelait Lot dans cette ville. Et bon, c'est la même chose que s'est produit à Evansville. Les habitants de la ville étaient bouleversés, étaient furieux dans un premier temps, puis dans les jours suivants, ils se sont mis à réfléchir sur ce qui s'était dit. Et le Saint-Esprit a fait son œuvre dans leur cœur. Ils sont venus voir ce Lot en question en disant, bien écoute, nous sommes spirituellement bas, prie pour nous. Et donc là aussi, un deuxième réveil a éclaté dans cette ville de Sodome, n'est-ce pas, où Phinée ainsi avait prêché. C'est dans ces années-là qu'il s'est marié, il avait 32 ans quand il s'est marié. Et deux jours après son mariage, il a quitté sa femme. Il est resté 6 mois sans la revoir. Prêchant partout, n'est-ce pas? Pour lui, il était animé de feu du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, prêchant le feu du réveil. Dans une ville qui s'appelait Anvers aussi, il y a eu un réveil important dans ces années-là. Et notamment, une femme élégante a été une des premières à répondre à l'appel qu'il a fait. Il demandait aux pêcheurs qui voulaient se repentir de leurs péchés de venir s'asseoir sur le premier banc ou au pied de l'estrade, et ensuite il renvoyait les autres. Il dit bon, ben, ceux qui n'ont pas d'autre intérêt, qui ne veulent pas se convertir ou qui sont déjà convertis, ou non, en général, ceux qui ne voulaient pas se convertir, il disait partez. Il disait ceux qui veulent se convertir, restez là, et puis les convertis venaient aussi pour prier pour les autres. Et donc cette femme élégante a été la première à se présenter donc à ce banc des pénitents. Et ça a été le déclic. C'était une femme très connue dans cette ville, et les autres sont venus après elle. Et alors, ce qui se passait dans ces moments-là, c'est que Phinée exigeait de ceux qui voulaient s'approcher de Dieu, qu'il appelait des pêcheurs éveillés, n'est-ce pas ? Des pêcheurs convaincus, plus exactement. Il faisait trois nuances, le pêcheur éveillé, le pêcheur convaincu, et puis le pêcheur sauvé. Alors, il s'approchait d'eux, il disait maintenant, vous confessez vos péchés au Seigneur, vous prenez la décision de réparer, n'est-ce pas, jusqu'au dernier. Et il avait cette méthode, il disait, il faut faire la chasse aux pécheurs qui essayent toujours de se cacher dans toutes sortes d'excuses. Il faut le débusquer dans ses cachettes les plus secrètes. Et alors, la conviction de péché était tellement forte, n'est-ce pas, dans les réunions de Phinée, que des gens tombaient par terre en poussant des cris, n'est-ce pas. C'est pas du tout Toronto. Toronto essaye de faire c'est la même chose qui se passait chez Phinée, pas du tout. Et Phinée expliquait bien dans ses discours sur les réveils que ces cris et ces manifestations étaient tout à fait inutiles. C'est parce que le pécheur résistait à l'Esprit de Dieu. Et aussitôt que le pécheur était prêt à se soumettre à l'Esprit de Dieu, ces manifestations extérieures s'en allaient. C'était la lutte de la chair contre l'Esprit de Dieu. Et Phinée ne s'en laissait pas compter. Il exigeait une soumission immédiate à l'Esprit de Dieu de la part de celui qui voulait se convertir. Et alors, quand les pécheurs avaient ainsi capitulé devant Dieu, décidé de mettre toute leur vie sur l'autel, alors c'est au contraire des cris de joie qui montaient des cœurs, etc. Et les gens sortaient absolument transformés. Et on a calculé qu'il a fait ça pendant tout son ministère. C'était sa méthode pendant 54 ans de ministère. Il a eu, n'est-ce pas ? Et jusqu'au bout, ça a été sa méthode. Et pendant son ministère, 1 million de personnes à son contact sont converties. Et on calculait qu'au moins 80% de ceux qui s'étaient convertis avec Phinée restaient fidèles jusqu'à la mort. Hein. C'était des conversions profondes, c'était pas des conversions à l'eau de rose. Et bien qu'il exigeait encore une fois des conversions immédiates. Alors évidemment, dès le début de son ministère, Phinée a été extrêmement controversé. On l'accusait de terrorisme, on l'accusait de méthodes qui n'étaient pas spirituelles. Quand on voyait, on entendait ces cris, ces gens qui geignaient, qui pleuraient sur leurs péchés, tout ça, c'était pas selon les traditions, c'est pas. Et il était donc très controversé. Et j'avais même des campagnes contre lui dans les journaux, etc. Phinée en a vécu, il continuait imperturbablement son ministère, et encore une fois, il a pu voir jusqu'à dans les jours les fruits bénis que le Seigneur lui donnait. Il a eu affaire, évidemment, à cause de ces choses-là, à des oppositions absolument formidables. Il avait, paraît-il, une éloquence qui n'était pas une éloquence du tout fabriquée. On disait de lui qu'il ne prêchait pas. Et ça, et à la limite, c'était aussi une des critiques qu'on lui adressait. C'est un homme qui ne sait pas prêcher. Il parle. C'est ce qu'on disait de lui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de style ampoulé, il parlait simplement aux gens des choses avec des langages tout à fait ordinaires qu'ils pouvaient comprendre, mais avec une telle puissance que vraiment les gens étaient bouleversés, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui avait connu Finet racontait que un jour, Finet avait parlé dans sa prédication sur la tempête apaisée, n'est-ce pas, sur le lac. Et alors, il avait fait une telle description de la tempête, paraît-il, avec le vent qui soufflait, les vagues, etc., que cet homme qui racontait ensuite disait, quand je suis sorti, je m'attendais à avoir, je me suis couvert instinctivement, attendant à voir tomber la pluie, souffler le vent, il faisait un soleil radieux, il disait à l'extérieur. On était tellement saisis par l'éloquence de Finet qu'on avait l'impression qu'on était à soi-même dans la tempête, comme les apôtres sur le lac. Alors, le mystère de Finet fut le temps des grands réveils. Il s'est rendu aussi dans certains lieux par révélation. Et partout où il allait, des milliers de personnes se convertissaient. Et alors, il attendait d'eux ensuite des œuvres dignes de la repentance. Et un de ses slogans, c'était qu'on ne se convertit pas pour être heureux, mais pour servir Dieu, pour glorifier Dieu. Et que ce qui est important, c'est pas de faire ce qu'on a envie de faire, mais de faire ce que l'on doit faire. Sur la notion de devoir, il insistait énormément sur cette notion du devoir. Il a traversé, parcouru en tous sens les États-Unis pendant ses 54 ans de ministère, voyageant de distances énormes dans des conditions évidemment qui étaient extrêmement précaires dans cette époque-là où il n'y avait pas évidemment les moyens qu'on a aujourd'hui. Et sa renommée a été telle qu'il a été invité en Angleterre. Il a été invité en Angleterre pour y tenir aussi des campagnes de réveil. Et il s'est rendu deux fois en Angleterre, donc avec les mêmes résultats qu'aux États-Unis. Là-bas, les Anglais l'attendaient aussi avec certaines ironies en disant « Oh là là, ces Américains, c'est des gens émotifs, etc. Ça marche là-bas, ça marchera pas chez nous ». Et puis, ça marchait chez eux exactement comme aux États-Unis, parce que c'était le même esprit de Dieu, et que finalement, les gens sont partout les mêmes. C'est des pécheurs qui ont besoin de se convertir aussi. Et les convertis en Angleterre ont été des milliers et des milliers qui se sont tournés vers le Seigneur au cours des deux séjours qu'il a fait, des deux campagnes qu'il a faites en Angleterre. Il est rentré donc en 1844 en Angleterre. Et là, sa santé était ruinée. C'était tellement dépensé, sans compter, qu'il était au bout du rouleau. Et il a dû partir se reposer pendant 6 mois. Mais quand il est rentré au bout de ces 6 mois, il s'est rendu compte que le réveil commençait à baisser. Et alors, il s'est relancé dans le travail, sans compter sa santé, ni pour lui-même, ni pour quoi que ce soit. Et il a pris conscience aussi d'un autre problème à cette période-là. C'était que la question de l'esclavage était devenue un enjeu politique et que cela menaçait le réveil. Et c'est pourquoi, donc, il s'est remis à la tâche en prenant résolument le parti anti-esclavagiste, demandant donc la libération des Noirs et disant que, aussi longtemps que l'Amérique n'aurait pas réglé cette question de l'esclavage, eh bien, la malédiction de Dieu serait sur le pays. Il a annoncé que si on ne prenait pas des décisions dans ce domaine-là, le Seigneur allait envoyer un terrible jugement sur l'Amérique. Et quelques années, effectivement, plus tard, a éclaté la guerre de sécession, avec son cortège terrible de la première guerre moderne, avec tout ce que ça signifie sur le plan évidemment, de la cruauté, enfin, des souffrances qu'une guerre moderne engendre. Et Finet, donc, avait eu, là aussi, une vision prophétique dans ce domaine-là. Voici, par exemple, oui, c'est dans ces années-là aussi que un journal qui se nommait L'Évangéliste était au bord de la faillite. Finet devait donner une série de conférences sur le réveil dans cette même ville où se tenait ce journal. Et les rédacteurs du journal ont demandé à Finet la possibilité de publier chaque semaine dans leur colonne les prédications qu'il apporterait. Finet a accepté. Et de fait, n'est-ce pas, l'évangéliste a publié, je sais plus si c'était tous les jours ou toutes les semaines, le déroulement de cette campagne de réveil qui se tenait dans ce lieu. Toujours est-il que l'essentiel de c'était pris en sténo à cette époque-là, bien entendu, il n'y avait pas de cassettophone ni d'engin du même genre, mais donc des gens ont pris en sténo ce que Finet a prêché, et donc l'ont publié dans ce journal semaine après semaine, autant que je me souvienne. Et à la fin cette série de conférences, ces études ont été publiées dans un livre qui a pris le nom de Discours sur les réveils. Et le livre qu'on trouve encore aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est le classique, n'est-ce pas, de Finet, Discours sur les réveils religieux, est né justement dans ces circonstances-là. Ces mêmes années aussi, un certain nombre de jeunes gens sont venus vers lui demandant de créer une école biblique pour les former, non pas dans l'esprit des écoles bibliques traditionnelles, mais dans l'esprit justement du réveil tel qu'il prêchait. Après avoir prié, cherché la face de Dieu, Finet a accepté. Et il a donc créé dans l'Ohio, à Oberlin, n'est-ce pas, une école biblique, et c'est là qu'il est venu se fixer. Il y restait plusieurs mois par an et il partait à partir de là pour ses tournées missionnaires. Il a fait ça pendant une quarantaine d'années à peu près. L'année suivante, il a effectué une série de conférences à New York, un petit peu sur les mêmes thèmes que ce qu'il avait fait dans les discours sur le réveil. Et c'est en 1843 que sa femme est morte après une courte maladie. Et bon, c'était un coup dur pour Finet, évidemment. Mais le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a parlé aussi au sujet du départ de sa femme. Et Finet donc a continué son travail jusqu'à l'âge de 83 ans. Et il est mort le 16 août 1875, après avoir prêché le dimanche précédent encore sa dernière prédication. Il est parti brusquement, pratiquement dans la semaine qui a suivi. Et donc on a calculé que il a 1 million de personnes se sont converties directement par son contact, et 8 millions de personnes indirectement par les fruits du réveil qui ont été le sien, qui ont été les siens, n'est-ce pas, ont touché 8 millions de personnes, auxquelles il faut ajouter ceux qui se sont convertis en 1908 dans le réveil de Mandchourie en Chine, n'est-ce pas, à la suite justement de la lecture et de la méditation de son ouvrage sur les réveils religieux. Et ce faisant donc, Finet a été un des plus grands revivalistes de tous les temps. Il est évident que même si un peu de ce qu'il prêchait était inséré dans une culture qui n'est plus la nôtre aujourd'hui, qui était la culture américaine du 19e siècle, l'essentiel de ses propos, tels qu'on les trouve dans les discours sur les réveils, sont des trésors, n'est-ce pas, pour tous ceux qui veulent véritablement marcher avec Dieu, s'approcher de Dieu. Bien sûr, c'est pas la Bible, c'est évident. Il y a des choses qui peuvent être nuancées, relativisées, mais l'essentiel de sa vision était quelque chose d'extraordinaire. Un des incidents aussi qui rapportait, c'était comment Finet un jour, pour montrer ce qu'était cet homme, visitait une filature dans laquelle travaillaient des jeunes filles, et était invité par le directeur. Et il parcourait les rangs comme ça des ateliers où ces filles étaient en train de travailler. Et au passage, certainement, une petite jeune là, qui avait entendu parler de lui, a fait une remarque ironique à son sujet. Finet s'est retourné simplement et il a regardé. Il a regardé quelques instants, sans rien lui dire, sans un mot. Et cette fille s'est effondrée en pleurant, convaincue de péché. Et sa voisine de travail s'est mise à pleurer à son tour, sans savoir pourquoi. Et toute la rangée, puis bientôt ça se propageait dans toute l'usine. Et toutes ces filles étaient à pleurer sur leur péché. Et il a fallu arrêter le travail parce que ces filles voulaient se convertir. Et l'essentiel d'entre elles se sont converties ce jour-là, simplement par un regard. Alors nous avons là vraiment un homme de Dieu hors pair, et bon, ce qu'on est obligé de dire de lui, évidemment, c'est très court parce que c'est dans le cadre de toute cette étude, mais c'était évidemment quelque chose de tout à fait impressionnant. Un deuxième grand revivaliste de cette période-là aux États-Unis, c'est Moody. Moody, 1831-1899. Moody était un homme qui est né le 7 février 1937. Il est né dans le Massachusetts, c'est-à-dire sur la côte est des États-Unis. Il était le sixième enfant d'une famille nombreuse. Son père était alcoolique. Il ne l'a pas connu parce qu'il est mort quelques mois après sa naissance. Avant sa naissance, pardon. Donc sa mère est restée seule avec les six enfants. C'était une femme tout à fait modeste, bien évidemment. Tant et si bien que Moody n'a pas eu une éducation très 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 élaborée. Quand il est né, le plus grand de ses frères avait déjà 13 ans. Sa mère s'appelait Betsy, et c'était une femme qui était pieuse, qui connaissait la Bible et qui, dans son malheur, n'est-ce pas, cherchait souvent des consolations et la réponse de Dieu dans sa parole. La famille de Moody était une ancienne famille qui était arrivée avec le Mayflower. Ça faisait partie des pères fondateurs des États-Unis et donc qui s'était établie dans cette ville de Northfield, au Massachusetts. Et donc c'est là que est né le jeune Moody et qu'il a grandi. Jeune enfant, et dès son plus jeune âge, il avait une grande facilité pour la parole. Il était très très éloquent, mais bon, très vite il s'est révélé qu'il était assez peu doué pour les études. À 10 ans, qu'il a eu l'âge de 10 ans, il a fallu qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, à ses propres besoins. Et il a été placé comme garçon fermier dans une ferme des environs. Bon, ça n'a pas trop marché. Il a travaillé aussi comme garçon. Boston. Il avait un oncle qui était commerçant et qui était d'accord de l'embaucher, mais sous condition. C'était, comme on dirait aujourd'hui, un contrat temporaire. Et très vite, l'oncle a été fort satisfait d'avoir son neveu qui travaillait dans cette entreprise parce qu'il s'est rendu compte que le jeune Moody avait, comme on dirait familièrement, la bosse du commerce. C'est pas pour ça, il était extrêmement doué. Et à cette époque-là, donc, Moody s'est mis à fréquenter une église congrégationaliste qu'il y avait à Boston. Boston était une ville très bourgeoise, très collimentée. C'est la haute société protestante américaine qui s'y retrouvait. Et Moody était plutôt quelqu'un d'une origine sociale modeste. Il se retrouvait au milieu de gens qui, au contraire, étaient des gens de la haute bourgeoisie. Ces gens riches l'agaçaient un peu, quoi, hein. Et l'oncle n'était pas très très heureux de le voir aller au culte tous les dimanches. Il trouvait que c'était un peu une perte de temps. L'oncle n'était pas tellement pieux et voulait le faire travailler aussi le dimanche. Moody a exigé, il n'est pas question, moi je veux avoir mon dimanche libre tous les dimanches pour pouvoir aller au culte. Finalement, l'oncle a fini par céder. Et c'est ainsi qu'un dimanche de 1854, Moody s'est converti dans ce qu'on appelle l'école du dimanche. Alors l'école du dimanche, c'est pas du tout ce que nous appelons l'école du dimanche. Dans certaines églises anglo-saxonnes, il y a avant le culte du dimanche matin des classes pour tous, pour enfants comme pour adultes. Et les membres de l'église, enfants comme adultes, sont divisés en différentes classes selon leur âge, selon leur niveau aussi de connaissance de la Bible. Et ils étudient la Bible, donc, comme ça, avant le culte. Et le culte intervient ensuite. Et c'est ainsi que Moody, donc, dans une de ces classes d'école du dimanche pour adultes, donc, s'est converti. Mais pour lui, ça n'était qu'un point de départ. À partir de ce moment-là, il a demandé à être reçu comme membre de l'Église. Alors, dans ce temps-là, il devait passer un examen pour être membre de l'Église. On l'interrogeait sur la Bible, on l'interrogeait sur ses expériences, tout ça. Et ça n'a pas été concluant du tout. On lui a dit qu'on ne pouvait pas le recevoir comme membre de l'Église. Ça, c'est amusant. Et qu'il fallait qu'il étudie plus la Bible pour pouvoir ensuite postuler. Alors, il s'est mis avec acharnement à étudier la Bible, comme on lui avait dit, Et il a repassé l'examen l'année suivante, et cette fois-ci, donc, il a été reçu. Et il avait 18 ans. En 1856, il a quitté Boston pour Chicago, dans le but de se lancer dans les affaires. Et comme il avait la bosse du commerce, il espérait pouvoir ainsi réussir. C'était aussi un homme qui aimait la musique et qui avait des dons musicaux assez importants. Et en arrivant à Chicago, donc, il a cherché une église évangélique à laquelle il s'est joint. Et on a remarqué ses talents musicaux, tant et si bien que on l'a mis en charge justement de tout ce qui était la partie musicale de l'église en question. Et il s'est trouvé à la tête d'une classe de musique de 350 élèves. Alan n'est pas encore là. Dans la même pensée, et c'était l'époque où se créaient aussi les unions chrétiennes de jeunes gens, Young Men Christian Association, IMCA en sigle, si vous voulez. Et bon, Moody était jeune à cette époque-là, et il a donc s'est lancé à corps perdu dans ce mouvement de jeunesse pour évangéliser les jeunes gens. Il a fait tellement bien qu'il a été nommé président de l'Union chrétienne de jeunes gens locale, à laquelle donc il participait. Et puis, il s'est joint donc à une autre église, il a quitté pour des raisons diverses, à côté de Chicago, dans une ville qui s'appelle Plymouth. Il s'est joint donc dans une église, il est devenu membre d'une église congrégationaliste. Chicago était une ville de 80 000 habitants à l'époque, qui avait quadruplé en 20 ans. Il a été embauché par un marchand de chaussures qui l'a nommé représentant. Donc, il était représentant, il était voyageur de commerce, si vous voulez. Et donc, il était membre de l'église du Mont Vermont, c'était le nom de cette église qui donc se trouvait là-bas. Il n'est pas resté longtemps dans cette église et il a rejoint une autre église méthodiste. Et là, il a organisé des classes bibliques pour les jeunes gens qu'il ramassait dans la rue. Ça a été le début de son ministère. Il est devenu évangéliste des rues, des jeunes. Puis, on l'a nommé aussi responsable d'une classe d'école du dimanche, comme celle à laquelle il s'était converti. Bon, il a été assez déçu par ce travail qu'il a fait dans le cadre de l'école du dimanche, parce que personne ne se convertissait malgré le mal qu'il se donnait dans ce domaine-là. C'est l'époque où il venait de se fiancer. Et là, il a compris que le Seigneur l'appelait à le servir totalement et donc à quitter les affaires. Alors, il a commencé des réunions dans un café. Il a loué une salle de café et il a évangélisé un petit peu comme faisait William Booth. Puis ensuite, bon, le propriétaire du café lui a laissé entendre que ça nuisait un peu à ses affaires. Il a prié d'aller voir ailleurs. Il a loué une salle de danse. Et c'est là qu'il a commencé il a continué à prêcher. Il était connu dans tout le quartier, comme le fou, on l'appelait le toqué, n'est-ce pas, le cinglé, ce maudit cinglé, voilà qu'on l'appelait à peu près. Mais il en avait cure. Et il continuait en même temps aussi à travailler dans le cadre de l'Union chrétienne de jeunes gens. Et c'est alors qu'a éclaté à Chicago, dans les années 58-59, 1858-1859, un réveil. Un réveil auquel le Moody jeune à cette époque-là était tout à fait étranger, qui était dans la mouvance de ces mouvements de réveil qui commençaient à balayer les États-Unis à cette période-là dont nous avons parlé. Et Moody s'est à fond engagé dans ce réveil et il est devenu un des instruments du réveil dans la ville. Et notamment, il avait une grande facilité pour aborder les gens, il avait une grande facilité pour la parole, il avait le contact facile et il abordait facilement les inconnus dans la rue. Est-ce que, bon, à cette époque-là aussi, des immigrants irlandais commençaient à arriver aux États-Unis, ils étaient catholiques, et les catholiques ont essayé de perturber les réunions que faisait Moody. Alors, Moody, lui, n'a pas hésité, il a demandé rendez-vous à l'évêque carrément. Et puis il était devant l'évêque, puis il dit, écoutez, monsieur l'évêque, je ne comprends pas pourquoi vous envoyez vos gens troubler mes réunions, je prêche l'évangile, etc., etc. Bon, il a tellement été persuasif qu'il est devenu ami de l'évêque. Il avait ses entrées, l'évêque l'a invité à manger de temps en temps, il s'est mis à prier avec lui, etc. Bon, il a eu un excellent contact justement avec les catholiques. Bien, ça a été ainsi jusqu'au moment où a éclaté, donc en 1861, la fameuse guerre de sécession. Et là, c'est un événement qui a bouleversé complètement la vie de Moody. Mais ça, si vous voulez, le temps étant passé, on verra ça la prochaine fois. Bien, si vous avez quelques questions à poser...